France Inter.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14. Au sommaire de ce mercredi 24 avril, la grève en zone de turbulence. Le principal syndicat des contrôleurs aériens a levé son préavis pour ce soir et demain. Les autres négocient, mais pour l'instant, les trois quarts des vols restent annulés vers Orly et 55% à Roissy. Atterrissage difficile pour les salariés du groupe Casino. Un tiers des emplois risque d'être supprimé à Saint-Étienne au siège. En tout, dans le groupe, en pleine restructuration, on pourrait compter jusqu'à 3200 suppressions de postes. À bas la paperasse, Bruno Le Maire a présenté son nouveau plan de simplification ce matin à Bercy. Quelques exemples, Mathilde Dehimy.
On dépoussière, on élague, on rationalise les démarches et stage obligatoire en entreprise pour les fonctionnaires chargés des contrôles.
Dans ce journal aussi, nous verrons à quoi vont servir les 61 milliards de dollars que les États-Unis débloquent pour l'Ukraine. Une carte de France polluante et pestilentielle, préparez-vous, celle des décharges sauvages. Il y a près de 120 infractions par jour dans notre pays. Le trafic de déchets est florissant. Un réseau de pilleurs de cimetières démantelé en Alsace, ils volaient des statuettes en bronze. Un documentaire sur Amsterdam pendant la guerre ou encore un biopic sur Amy Winehouse. Les sorties ciné du jour avec Alexis Demeyer tout à l'heure et puis un bon coup de vent dans nos oreilles. À Avignon, on n'en peut plus du Mistral.
Les chaises, les verres, tout s'envole. On installe au moins pour faire appel aux clients. Il n'y a personne qui se met sur les tables parce que voilà, le Mistral, il est trop fort. Ça nous empêche de travailler, franchement.
À 13h30, si on s'intéressait aux vieux pour une fois, à ceux qui deviennent invisibles avec le grand âge, ceux qui ont connu près d'un siècle d'histoire et qui l'ont fait aussi, le réalisateur Klaus Drexel leur consacre un documentaire émouvant, drôle et pudique. Un tour de France inédit, ça s'appelle Les Vieux et il viendra nous en parler. Vos questions sont les bienvenues, 01 45 24 7000. Pourra-t-on se baigner dans la Seine pour les Jeux Olympiques? La suite du feuilleton de la semaine d'Emma Sarango. Les Français peu optimistes sur l'Europe, c'est la France avec Eric Fotorino. C'est une chanson, l'écrivain David Diop a choisi Zoufris Maracas, Sa Majesté la Mère. Voilà, vous avez le programme. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
France Inter.
La grève des contrôleurs aériens dès ce soir et demain, quel sera le trafic? Impossible de le dire définitivement à l'heure où l'on se parle. Le syndicat national des contrôleurs aériens, le principal syndicat de cette branche, a finalement levé son préavis de grève in extremis dans la matinée. Les négociations avaient repris avec la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, autour de la réforme qui prévoit d'augmenter la productivité face à la croissance du trafic. Un changement d'organisation contesté par les contrôleurs. Bonjour Claire Chaudet.
Bonjour.
Alors pour l'instant c'est assez confus, d'autant que d'autres syndicats sont en train de négocier à leur tour.
Oui, après le principal syndicat, c'est au tour de la CFDT notamment de rentrer en piste. Les discussions ont même commencé depuis une demi-heure. De sources syndicales, c'est un engagement à revenir à des négociations sur les salaires plus proches de ce qui avait été promis au départ, qui a entraîné la levée du préavis par le SNCTA. À la clé, la reprise dans les jours qui viennent de négociations sur le fond de cet accord collectif, cette grosse réforme du contrôle aérien, plus de flexibilité, de productivité des agents, vous le disiez, réorganisation des équipes, des temps de travail et même modification de la carte des tours de contrôle avec en contrepartie primes et hausses de salaire, notamment pour les fins de carrière. Mais, car il y a effectivement un mais, Christelle, même si tous les syndicats, pas seulement le SNCTA, levaient leur préavis, eh bien, le délai de rétractation étant passé, pas sûr du tout que les perturbations soient évitées. La DGAC a revu légèrement à la baisse ce matin le nombre d'annulations demandées aux compagnies, mais la situation risque de rester compliquée.
Alors, peut-on faire une prévision de trafic, Claire?
Oui, pour le moment, pas de changement pour Orly, 75% de vols annulés, même si les choses sont évolutives et que de bonnes surprises peuvent encore arriver. 55% d'annulations toujours à Roissy au lieu de 65% initialement, 45% pour de nombreux aéroports en région au lieu de 50%. Une poignée d'entre eux, nous dit-on, auront peut-être malgré tout la chance d'éviter toute annulation d'ici demain. Pas d'informations à l'heure qu'il est sur une éventuelle levée du préavis déposé pour le pont de l'Ascension.
Claire Chaudière, l'action a pris 4,7% à l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin, mais il y aura de la casse sociale chez Casino, ou ce qu'il reste du groupe qui compte aussi les enseignes Franprix, Monoprix et Cdiscount. Le distributeur surendetté annonce ce matin la suppression potentielle d'entre 1300 et 3200 postes dans les magasins et entrepôts logistiques qui n'ont pas encore été cédés. Ce que l'on appelle publiquement un plan de réorganisation de l'emploi vient d'être présenté. Bonjour Agnès Soubirous. Soubiran.
Bonjour.
Et il concerne aussi le siège historique du groupe à Saint-Étienne. C'est plus qu'un symbole de la fin d'une époque.
Oui, ce gigantesque bâtiment installé face à la gare est au centre de toutes les attentions et il va donc perdre un tiers de ses effectifs, 554 suppressions de postes exactement, que la direction justifie par la vente de la plupart des hypermarchés et supermarchés gérés depuis le siège. Le groupe qui employait encore 50 000 personnes en France fin 2022 compte aujourd'hui moins de 30 000 salariés et sans doute autour de 25 000 d'ici la fin de l'année. Les sièges de Monoprix et de Franprix basés en région parisienne sont également touchés. Et puis, de la vente ou pas d'une vingtaine de derniers hypermarchés et de quelques centres logistiques dépend encore l'ampleur des suppressions de postes qui, au global, pourraient concerner jusqu'à 3 267 personnes. C'est de toute façon, Christelle, le plus grand plan social en France depuis le début de l'année.
Et comment le nouveau propriétaire du groupe compte-t-il relancer ses marques ?
Alors, en injectant 300 millions d'euros par an jusqu'en 2028, soit au total 1,2 milliard d'euros, pour moderniser les fleurons du groupe, Monoprix, Franprix et les magasins de proximité qui n'ont pour certains pas été entretenus depuis plusieurs années. La nouvelle direction compte mutualiser certaines fonctions, services financiers, ressources humaines, communication, informatique, tout en veillant à conserver l'identité de chaque enseigne. Et puis, des économies espérées aussi en groupant les achats avec Intermarché et Auchan grâce à un partenariat signé pour 10 ans. L'objectif reste de faire de Casino le premier réseau de magasins de proximité dans l'Hexagone.
La réaction de Sylvie Fayol, c'est la présidente par intérim de Saint-Étienne Métropole. Pour elle, c'est un moindre mal.
C'est déjà très bien que le siège reste sur Saint-Étienne. Il y a 1000 emplois qui sont sauvegardés. Bien sûr, moi je pense aux 500 autres. Donc bien évidemment, on va rester très mobilisés et très attentifs à tout ce qui se passe, parce que ça fait vivre aussi les commerces autour, etc. ou autre. Mais bien sûr que ces 500 personnes, il faut vraiment, vraiment penser à elles et se dire que oui, on va prendre des... Moi j'ai demandé ce rendez-vous pour voir comment les choses vont être envisagées.
Parce que c'est sur toute la ville que ça peut avoir des répercussions.
Ça peut avoir un impact beaucoup plus important sur tout notre territoire, parce que tout le monde en est très conscient. C'est vraiment une institution dans notre département. Il y a énormément de gens qui travaillaient pour et qui travaillent encore, heureusement, je dis, qui travailleront encore pour le groupe.
Dossier signé Agnès Soubiran. Inquiétude aussi pour Duralex. Va-t-elle être placée en redressement judiciaire ? Le tribunal de commerce d'Orléans doit décider aujourd'hui du sort de l'entreprise mythique de verrerie, dont la vaisselle réputée incassable est vendue dans le monde entier. L'entreprise espère ainsi trouver un repreneur et sauver l'usine qui emploie 230 salariés. N'emmerdez pas les Français. L'injonction de Georges Pompidou en 1966 est devenue le symbole de la simplification administrative. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on en est à la quatrième réforme, simplifier la vie des entreprises et celle des Français face à une inflation exponentielle des normes sur le code du travail, du commerce ou encore de l'environnement. Bruno Le Maire a rendu ce matin sa copie, un plan en 50 points. Mathilde Dehimy, vous êtes à Bercy pour France Inter. Entre demandes d'autorisation simplifiées, temps de recours raccourcis, feuilles de paye qui vont à l'essentiel, mais ce plan va-t-il aussi loin que prévu, Mathilde ?
Eh bien, il répond en tout cas, Christelle, en large partie aux demandes des chefs d'entreprise consultés cet hiver. Beaucoup de mesures sont très précises, avec d'abord la suppression des formulaires administratifs, les fameux CERFA, dont les arrêts maladie envoyés en doublon, convient Bruno Le Maire.
Dans un système totalement ubuesque, où il y a une déclaration d'arrêt maladie qui est faite, qui est renvoyée à l'employeur, que l'employeur doit à nouveau renvoyer à l'assurance maladie, alors même qu'elle l'a déjà. Donc 15 millions de déclarations seront supprimées immédiatement dès cette année.
Les accès au marché public, 160 milliards d'euros, seront facilités par une plateforme unique. Les avances sur trésorerie pour les commandes publiques sont alignées, 30% pour tous. Les seuils changent aussi pour certaines exonérations en cas de recours à un avocat, par exemple. Enfin, les patrons pourront déposer une seule fois pour toutes les administrations leurs documents en ligne. Tout ça sera fait dans quelques mois ou quelques années, 2026, 2027, 2030. C'est l'une des craintes des chefs d'entreprise, que ça n'aille pas assez vite. Autre regret pour Jean-Hugues Duménil de la CPME, n'avoir pas été entendu sur les effets de seuil qui bloquent, selon lui, le développement des PME de 50 salariés, par exemple.
quand vous passez à 51 salariés, vous avez 35 obligations administratives et financières qui, uniquement par le fait d'embaucher une personne supplémentaire, vous donnent dessus. Donc voilà, nous, ce qu'on avait proposé là-dessus, c'est simplement de multiplier les seuils par deux.
Des PME qui obtiennent de pouvoir tester les nouvelles normes avant leur entrée en vigueur et qui sont satisfaites de voir ce dépoussiérage qu'on reconduit chaque année par Bercy. Les mesures sociales sont-elles renvoyées à des négociations côté ministère du Travail?
Et le texte sera présenté au Sénat le 3 juin. C'était Mathilde Himy avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques en direct de Bercy. Il ne manque plus que la signature de Joe Biden. Le vaste plan américain d'assistance militaire et économique a été largement adopté par le Sénat américain cette nuit. Il prévoit 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine qui fait face à une pénurie de munitions. Volodymyr Zelensky s'en est félicité dès cette nuit, d'autant que son pays redoute une offensive russe. Alors concrètement, Christian Chesneau, à quoi va ressembler cette aide militaire ?
Les armes américaines doivent arriver très vite en Ukraine, dans la semaine, annonce même Joe Biden. Elles serviront d'abord à fortifier la ligne de front qui court sur plus de 1000 km. Depuis des mois, l'armée russe grignote du terrain car les soldats ukrainiens manquent cruellement de munitions et doivent économiser leurs tirs. L'assistance militaire américaine s'était interrompue il y a plusieurs semaines, ce qui mettait en grande difficulté l'armée de Kiev. Un premier décaissement américain d'$1 milliard de matériel est déjà prêt à être mobilisé. Les équipements militaires qui seront livrés concernent essentiellement deux domaines principaux. La fourniture massive d'obus d'artillerie, notamment de 155 mm, mais aussi de lance-roquettes HIMARS installés sur des camions. Ce système de missiles est l'un des plus performants au monde. Il peut frapper dans la profondeur les zones occupées par la Russie dans un rayon de 70 km. Enfin, l'assistance américaine couvrira la défense anti-aérienne des grandes villes ukrainiennes frappées régulièrement par des bombardements russes.
L'Ukraine qui revendique ce matin des frappes contre des sites énergétiques en Russie à 400 km de la frontière, notamment contre deux dépôts pétroliers. Et là-bas, en Russie, eh bien, c'est le sort d'un ministre adjoint de la Défense qui interroge. Timour Ivanov a été arrêté pour corruption présumée. C'est un personnage clé de l'appareil militaire en charge de toutes les opérations de construction. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Christelle.
France Inter à Moscou. Sylvain, on ne sait pas exactement ce qui lui est reproché, mais cette arrestation très rare à ce niveau du pouvoir suscite toutes sortes de spéculations.
Oui, parce que vous l'avez dit, hein, même s'il est peu connu à l'étranger, Timour Ivanov, c'est un personnage clé du système en charge de toutes les opérations immobilières au sein du ministère de la Défense. La construction de casernes, de fortifications, c'est aussi lui qui supervisait l'énorme chantier de la reconstruction de Mariupol. Bref, un homme qui brasse des centaines de milliards de roubles pour le compte de l'État. Mais une enquête de la fondation d'Alexei Navalny avait aussi montré en 2022 le train de vie de milliardaires fait de villas sur la Côte d'Azur et de Rolls-Royce qu'il partageait avec sa femme, Svetlana Manojovitch, dont il est soupçonné d'avoir divorcé pour raison de convenance afin qu'elle puisse continuer à voyager en Europe, lui-même étant sous sanction. Pour autant, on ne comprend pas pourquoi Timour Ivanov a été arrêté. La corruption est systémique, c'est largement documenté au plus haut niveau du pouvoir russe. Les arrestations pour corruption sont rarissimes à ce niveau. La mise à l'écart brutale de ce ministre adjoint pourrait être un avertissement selon certains analystes russes. Ne profitez pas trop du système en temps de guerre, à moins qu'elle ne vise directement son patron, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, dont il est proche et dont on ne sait pas s'il sera toujours au gouvernement après l'investiture officielle de Vladimir Poutine début mai.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Les États-Unis qui ont aussi débloqué 13 milliards de dollars pour Israël afin de renforcer le dôme de fer et de répondre aux besoins humanitaires urgents dans la bande de Gaza. Des fonds aussi pour Taïwan. Cela ne fait qu'accroître le risque de conflit, prévient ce matin la Chine. Alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, y est en visite jusqu'à vendredi. Le Congrès américain qui lance aussi un ultimatum à TikTok. Il demande aux géants de couper ses liens avec sa maison mère ByteDance et plus largement avec la Chine. Sinon, eh bien, le réseau social sera interdit aux États-Unis. Enfin, l'Europe s'en prend aussi à la Chine. L'Union a lancé une enquête sur les marchés publics de dispositifs médicaux. Bruxelles soupçonne la Chine de favoriser ses fournisseurs locaux sur ce marché via la politique baptisée « acheter en Chine ». Pékin accuse l'Europe de protectionnisme.
France Inter, le 13-14.
Christelle Rebière.
Des sacs plastiques qui volent, des frigos abandonnés dans des champs, des meubles et autres matériaux de construction. Les décharges sauvages se multiplient et cette pollution-là n'est pas que visuelle. Près de 45 000 infractions liées aux déchets ont été enregistrées l'an dernier par les forces de police et de gendarmerie, soit près de 120 par jour d'après le Figaro. En fait, Emmanuel Leclerc, le trafic est absolument florissant.
Et là, on parle des infractions constatées chaque jour et sur l'année 2023, ce sont effectivement 44 823 affaires en lien avec ces déchets déposés n'importe comment, enterrés sciemment pour ne pas payer leur transport, les taxes ou les stocker, les recycler ou les détruire. Et ça ne fait qu'augmenter. C'est 15% d'infractions en plus constatées par rapport à 2020, même si on peut penser que c'est parce que les associations, les maires dénoncent plus souvent la présence des déchetteries sauvages et que la police et les gendarmes ont aujourd'hui des services très spécialisés qui infiltrent mieux les filières criminelles, mafieuses, pour trouver des sites d'enfouissement avec comme exemple le démantèlement il y a 3 ans d'une filière de déchets belge enfouie en France. On était quand même à 10 000 tonnes de déchets selon les enquêteurs, au risque de polluer évidemment les nappes phréatiques à chaque fois ou de faire paître des vaches sur des champs où ont été enterrés illégalement des produits très polluants, comme on l'a vu en Italie avec les enquêtes du journaliste Roberto Saviano dans Gomorra. Sachant qu'il y aurait encore en France, Christelle, actuellement près de 36 000 dépôts sauvages.
Emmanuel Leclerc, une pollution de l'eau. Cette fois, le groupe Nestlé affirme avoir détruit une partie de sa production pour la marque Perrier après une dégradation de la qualité de l'eau dans l'un de ses puits dans le Gard. Ça représente plusieurs centaines de palettes de bouteilles. Mais Nestlé Water ne précise pas la nature de la contamination. Des bénitiers décellés, des croix disparues, c'est ce qu'ont découvert certains habitants du Grand Est en allant entretenir les tombes de leurs proches. Eh bien, 4 personnes ont été arrêtées la semaine dernière, soupçonnées d'avoir volé des centaines d'objets en bronze dans les cimetières de la région, essentiellement dans le Haut-Rhin. Pour le moment, 300 victimes ont été identifiées. Le métal était revendu en Allemagne, une organisation, Ariane Grissel, extrêmement efficace et très bien rodée.
Oui, en juillet dernier, les gendarmes d'Altkirch dans le Haut-Rhin constatent un nombre important de vols dans les cimetières du secteur. Un premier article paraît dans la presse locale. Christian, qui habite la région, décide d'aller vérifier ce qu'il en est sur la tombe familiale.
J'ai constaté que donc le bénitier et puis le goupillon qu'on avait scellé, qu'on avait vissé, avaient été arrachés. En regardant un peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 25 à 30 tombes qui étaient également concernées.
D'autres vols sont constatés dans le territoire de Belfort, le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges. La vidéosurveillance et des témoignages permettent aux gendarmes de remonter vers une famille de nationalité roumaine soupçonnée d'agir la nuit pour revendre ensuite effectivement le bronze en Allemagne autour de 6 euros le kilo. Une enquête dirigée par Sébastien Rocher qui commande la compagnie de gendarmerie d'Altkirch.
Il faisait un tas à proximité de l'entrée du cimetière. Mais une fois que c'était prêt, il revenait avec la voiture et il chargeait tout ça et puis repartait. Pour les moins malchanceux des victimes, on a des objets qui ont été démontés proprement. Pour les plus malchanceuses, il y a eu beaucoup de casses avec des tombes qui ont été abîmées. On a quelques devis qui sont venus à plusieurs milliers d'euros, entre 6 000 et 8 000 pour certains.
Le préjudice est estimé à 175 000 euros pour le moment et sans tenir compte du préjudice moral dont témoigne Christian.
C'est pitoyable, c'est nauséabond. On ne s'attaque pas à la mémoire des morts. Il nous reste plus que ça, des gens qui sont partis. Le seul endroit où on peut se recueillir, en fait, c'est là.
3 des suspects ont été placés en détention provisoire.
Un point final au nouveau chapitre dans l'affaire Fillon. 7 ans après le Penelope Gate, en pleine campagne présidentielle, la Cour de cassation doit rendre son arrêt en début d'après-midi sur les pourvois de l'ancien Premier ministre, son épouse et son suppléant. Ils avaient été condamnés pour des emplois fictifs à l'Assemblée nationale. L'avortement, il est entré dans notre Constitution, mais dans les faits, il faut encore en simplifier l'accès. Un nouveau décret prévoit que les sages-femmes qui auront été spécialement formées pourront désormais pratiquer des IVG instrumentales dans des établissements de santé dans les mêmes conditions de sécurité que les médecins. Oubliez les conditions restrictives qui avaient été exigées au départ. Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, ce matin l'a annoncé sur France Inter.
Cette nuit est paru un décret qui effectivement autorise et facilite, surtout simplifie les procédures pour les sages-femmes pour pratiquer des IVG chirurgicales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles le font dans un établissement qui a l'autorisation de ce type d'acte, il n'y a pas besoin d'avoir à côté d'elles un médecin qui, au-dessus de leur épaule, vérifierait ce qu'elles feraient. Et donc c'est un acte aussi pour faciliter l'accès à l'IVG.
Un décret qui simplifie donc la pratique de l'IVG instrumentale, une décision qui était attendue du côté des sages-femmes. Caroline Combeau est présidente de l'Organisation nationale et syndicale des sages-femmes.
Actuellement, les effecteurs possibles étaient les gynécologues et les médecins généralistes. Et donc, on s'est rendu compte que dans des périodes un peu plus à flux tendu que sont les périodes de vacances, etc., on n'avait pas suffisamment d'effecteurs. Donc, depuis 2016, les sages-femmes pratiquent déjà l'IVG médicamenteuse et ça se passe très bien. Donc, l'IVG instrumentale est la suite logique de cela, sachant que sur le plan technique, c'est un geste qui se fait à l'intérieur de l'utérus, qui est un geste que nous maîtrisons déjà. C'est vraiment la question de l'accessibilité et de la réduction des délais qui importe. Et là, nous, nous sommes persuadés qu'avec cette nouvelle écriture donc, du décret encadrant la pratique de l'IVG instrumentale par les sages-femmes, on va se rapprocher de cet objectif et on est vraiment ravis.
Caroline Combeau, interrogée par Victor Dolande. Quant à l'affaire MeToo dans le milieu de la santé, le ministre doit rencontrer Karine Lacombe, qui accuse l'urgentiste Patrick Peloux de harcèlement sexuel et moral. Et il promet une tolérance zéro. 650 millions d'euros pour les EHPAD à se partager entre les établissements publics, associatifs et privés. 85% des publics, notamment, sont dans le rouge, annonce ce matin de la ministre déléguée aux personnes âgées, Fadila Khattabi. Elle souhaite aussi revoir leur mode de financement et éventuellement fusionner la partie dépendance et celle des soins. Respirer sans danger en région parisienne, la qualité de l'air continue de s'améliorer de manière spectaculaire. Moins 40% de concentration des dioxydes d'azote et de particules fines en 10 ans. C'est le résultat du dernier bilan d'Air Paris, l'organisme indépendant chargé de mesurer la qualité de l'air. Une bonne nouvelle, mais il va falloir faire encore mieux, car le Parlement européen, Sandy Dauphin, doit voter aujourd'hui le durcissement des seuils de pollution des 27.
Après des années d'amélioration, l'Île-de-France respecte presque les seuils de qualité de l'air. Pour Pierre Pernaud, ingénieur à Air Paris, il n'y a pas de secret, c'est grâce à la réglementation, notamment des voitures plus propres. De moins en moins de franciliens sont exposés à des taux de pollution au-dessus des normes.
On a actuellement 5000 franciliens qui sont en dépassement des valeurs limites. Donc c'est un chiffre très très faible, hein, puisque encore en 2007, on était à 1,3 million de franciliens.
Ce sera plus difficile en revanche de respecter les futures normes européennes prévues pour 2030. Elles sont plus strictes, notamment pour les polluants émis par le trafic routier. Pour vous donner une idée, les valeurs limites pour le dioxyde d'azote seront divisées par deux.
Si on appliquait dès à présent ces seuils, on a 4,5 millions de franciliens qui seraient en dépassement de ces nouvelles valeurs limites. On voit qu'il faut aller plus loin dans les mesures déjà mises en place si on souhaite finalement respecter ces seuils à l'horizon 2030. Il faudra avoir des baisses d'émissions à la source plus importantes, notamment sur le trafic routier et le chauffage résidentiel.
Autre défi, le réchauffement climatique. Les températures élevées favorisent la pollution à l'ozone. C'est d'ailleurs le seul polluant qui ne baisse pas en Île-de-France.
Là, ce n'est pas la qualité de l'air qui est en cause, mais le vent. Le Mistral sévit depuis une semaine dans le Vaucluse avec des pointes à 85 km/h. Là-bas, on y est habitué. Mais ce froid aussi mordant que décoiffant agace sérieusement les Avignonnais. C'est un reportage de Corinne Mollard de France Bleu Vaucluse.
Au milieu des bourrasques, Mamadou dresse ses tables en terrasse, un verre au moins sur chaque serviette.
Là-bas en haut, les chaises, les verres, tout s'envole. On installe au moins pour faire appel aux clients. Si vous ne faites pas la mise en place, ils vont dire que c'est fermé ou autre.
Malgré tout, sa terrasse reste vide.
Il n'y a personne qui se met sur les tables parce que voilà, le Mistral il est trop fort, ça nous empêche de travailler franchement.
Même constat dans ce magasin de cosmétiques.
On a moins de flux sur le magasin.
Oui, bon, il y a les puces dans les centres commerciaux. Nous, on est au centre-ville, donc du coup les portes elles sont tout le temps ouvertes.
Et à peine le balai reposé pour Miranda et Madison.
La poussière sur les tables, on doit faire quotidiennement la poussière.
Tout ce qui est là, vous voyez, tout ce qui est ici, les rouges à lèvres, les poudres, etc. C'est horrible. On est obligé de passer au moins 4 fois le balai, sinon il y a les feuilles, le pollen, il y a de tout.
Ici, pas de porte coulissante, la boulangerie est directement ouverte sur la rue.
Alors on a des polaires, mais on a froid, surtout les mains.
Mais Amina relativise.
Fais avec, hein. Je pense que c'est par habitude. C'est une partie de l'année, après ça passe, l'été, il y a les abeilles, on s'adapte en fonction de chaque saison.
Elle espère bien pouvoir bientôt reposer la polaire.
Voilà, c'est déjà ça, mais il va falloir tenir aujourd'hui encore au moins, ça souffle, nous dira Sébastien Léas dans un instant.
Moteur !
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Ok. Le cinéma du mercredi avec les sorties du jour. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Christelle.
On commence avec un film hors norme à bien des égards, le documentaire Occupied City.
Oui, hors norme car ce nouveau projet clivant signé du réalisateur britannique Steve McQueen dure 4h26 et parce que la voix off qui nous accompagne tout du long décrit des choses très différentes de ce que nous voyons à l'image.
The Nazis started to ban Jews from parks, pools, shops, cafes and schools, from all public life.
Les plans d'une impressionnante maîtrise formelle nous montrent Amsterdam de nos jours, notamment au moment de la pandémie de Covid. La voix off, en revanche, évoque des adresses de la ville hollandaise où habitaient des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui furent pour la plupart arrêtés et exécutés. Ce dispositif est puissant, rendant Occupied City poignant, mais quelquefois dérangeant aussi, comme lorsque Steve McQueen semble établir un parallèle très, très discutable entre le nazisme et la restriction des libertés individuelles pendant le confinement.
Autre salle, autre ambiance, avec le biopic consacré à la chanteuse anglaise Amy Winehouse.
Back to Black, comme le titre de cette biographie musicale l'indique, c'est à la période qui embrasse l'écriture, l'enregistrement et la sortie triomphale du deuxième et ultime album d'Amy Winehouse que s'intéresse la réalisatrice Sam Taylor-Johnson, qui avait déjà signé l'adaptation à l'écran du best-seller 50 nuances de Grey.
I don't write songs to be famous. I write songs 'cause I don't know what I'd do if I didn't.
Même chose que pour le biopic de Bob Marley sorti cet hiver, c'est ici une version aseptisée et donc frustrante de la vie de la diva londonienne qui nous est présentée. Il y a bien sûr de très jolis moments et l'actrice qui interprète Amy Winehouse ne démérite pas, mais on aurait aimé plus d'aspérité, plus d'ambiguïté, tant la destinée de cette chanteuse possède un potentiel aussi romanesque que tragique.
Effectivement, un film français cette fois façon roman d'apprentissage, ça s'appelle Première Affaire.
Et il y a un petit côté mise en abîme parce que cette Première Affaire est un premier film. La jeune réalisatrice Victoria Musidlac s'intéresse ici à une jeune avocate qui se voit attribuer son premier client.
J'ai peur, s'il se prend 30 ans de prison à cause de moi.
Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça.
C'est la comédienne Noé Habitat qui incarne Nora, cette Parisienne timide, maladroite, qui vit encore chez ses parents et qui va devoir défendre un jeune homme accusé du meurtre d'une adolescente. Tout n'est pas parfaitement exécuté dans ce drame social parfois un peu convenu, mais Nora, ce personnage féminin très fort, finit par nous embarquer avec elle dans son parcours chaotique et sans manichéisme.
Et quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Frère, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal, l'histoire vraie de deux jeunes enfants qui ont survécu plusieurs années dans un bois en Charente-Maritime. Challengers, un triangle amoureux mis en scène par le réalisateur de Call Me By Your Name. Et Le Déserteur, un très beau film israélien sur un jeune soldat qui fuit les combats. Je vous en reparle ce soir chez Fabienne Synthèse dans Un jour dans le monde.
Eh ben, on vous écoutera tout à l'heure. Merci Alexis. Et si vous préférez le sport, un nouveau titre peut-être dès ce soir. Le PSG qui se déplace à Lorient pourrait être sacré champion de France en cas de victoire. Et si Monaco ne bat pas Lille, il s'agit là d'un duel de prétendants à la Ligue des Champions. Ce serait le 12e titre de l'histoire du PSG. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo toujours fraîche de Sébastien Léas. Les vieux, c'est le titre sans phare d'un documentaire sur nos anciens réalisé par Klaus Drexel. Un tour de France de nos aînés et de ce qu'ils ont à dire du siècle qu'ils ont traversé, mais aussi de l'isolement ou encore de la mort. Le film sort aujourd'hui sur les écrans et il célèbre la vie. Le réalisateur est notre invité dans quelques minutes. Le feuilleton de la semaine avec Emma Sarango, au fil de la Seine en amont des Jeux Olympiques ou comment assainir le fleuve en moins de 3 mois. C'est la France et c'est une chanson. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Christelle.
C'est la France donc.
Alors c'est la France et même l'Europe, parce qu'à la veille du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne demain sur l'Europe, nous voyons que les Français sont assez désenchantés.
Et dans C'est une chanson, Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Christelle, eh bien dans C'est une chanson, nous irons à la rencontre de l'écrivain David Diop. David Diop, prix Goncourt des lycéens pour son roman Frère d'âme. Il nous fera écouter une chanson du groupe Zoufris Maracas, Sa Majesté la Mer.
A tout de suite.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
le ciel de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Avec des averses.
Oui, les conditions restent instables cet après-midi avec un défilé de nuages qui laisse peu de place aux éclaircies et qui s'accompagne par moments d'averses. Cette instabilité va s'accentuer cet après-midi avec des averses plus nombreuses. Les averses se développeront surtout sur un axe allant du sud-ouest au nord-est avec des limites plus neige vers 1300 mètres sur les Pyrénées et 700 à 1000 mètres sur les autres massifs. Entre les côtes de la Manche, le bassin parisien, le centre-val de Loire et le Poitou-Charentes ainsi qu'en Corse, les averses seront plus isolées. On peut même apercevoir des éclaircies un peu plus franches. Et puis l'après-midi sera nettement plus ensoleillé sur le pourtour méditerranéen. Le ciel restant bien dégagé sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane. Quelques nuages apparaîtront tout de même sur le Mercantour ou iront déborder sur le Languedoc. Et puis les températures restent fraîches. Les maximales vont même perdre quelques degrés dans le nord-est. On attend seulement 9 degrés à Besançon, Mulhouse et Aurillac, 10 degrés à Lille et Nancy, 12 degrés pour Paris et Lyon, 13 degrés à Tours et Toulouse, 14 degrés pour Nantes, 15 degrés à Bordeaux et à Brest, 16 degrés pour Marseille, 17 à Bastia, jusqu'à 18 à Perpignan. Et puis la nuit prochaine, des gelées sont encore à craindre sur un large quart nord-est.
On va en sortir de cette fraîcheur ou pas là ?
Oui. Et à partir de demain, les températures vont commencer à remonter.
Eh ben voilà, quand vous voulez. Merci Sébastien.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
Il s'appelle Denise, Bernadette, Mohamed, René, Jean-Jacques, Gabriel, Pauletta ou encore Henriette. Et ils sont vieux. Et c'est parce qu'ils sont tous nés avant le début de la Seconde Guerre mondiale que le réalisateur Klaus Drexel a choisi d'en faire ses héros. Tous ces gens qui ont traversé un siècle ou presque et qui sont devenus invisibles. On parle beaucoup de grand âge, mais on ne s'intéresse pas vraiment à eux. Son film documentaire intitulé Les Vieux sort aujourd'hui au cinéma et on en parle avec vous au standard 01 45. 24 7000. Bonjour Klaus Drexel.
Bonjour Christelle.
Merci d'être avec nous dans le 13-14. Avant de parler de votre film, d'abord, comment vous dites-vous ? Les vieux, les anciens, les seniors ?
Moi j'adore dire les vieux, parce que justement il y a le côté un peu subversif de ce terme, et moi j'aime bien ça, parce que si on faisait un film sur les jeunes, ça gênerait personne de l'appeler les jeunes. Mmh. Moi j'ai une belle-sœur qui vient du Burkina Faso, et en Afrique, ce terme de vieux, c'est extrêmement honorifique. Et je trouve que avec notre société productiviste, en fait, dès qu'on produit plus, on est relégué sur le bord de la société. Mmh. Et donc, voilà, si on choisissait un autre terme, c'est un autre terme, l'autre terme qui deviendrait péjoratif. Donc il faut l'appeler franchement les vieux, moi j'aime ce terme.
Donc dire les vieux, c'est aussi une façon de changer notre regard sur eux, déjà ?
Ben oui, c'est ça, et de les accepter à la table des vivants. Pour moi, c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est des personnes dont on parle toujours c'est des problèmes parce que en ce moment on parle beaucoup de la fin de vie, évidemment on parle des problèmes dans les établissements, tous ces
on
thèmes
parle du grand âge, de l'autonomie,
voilà, tout
etc.
ça c'est important, ouais. Mais on n'entend jamais la parole des personnes elles-mêmes, quoi. Et c'était vraiment ça l'idée du film, d'aller voir de faire le tour de France des vieux et de les écouter.
Alors, devant nous, dans votre film, devant nous, les spectateurs défilent en images fixes 36 personnes de 80 ans et plus, il y a même des centenaires, 18 hommes, 18 femmes, seuls, parfois en couple, parfois chez eux, d'autres en EHPAD. Vous êtes allés les rencontrer dans leur intérieur et dans leur intériorité, et vous nous emmenez pour un tour de France inédit. Extrait.
Chacun à sa place, jusqu'au dernier souffle. On a encore des choses à donner, des choses à faire, rien que d'être écouté.
Mon père part un matin pour travailler et ne revient jamais. Ça a été la première rafle des Juifs.
J'avais envisagé de donner mes organes à la science. Mais au bout d'un certain temps, mes organes, ils sont plus bons. T'as accouché 40
non,
femmes.
Non, soigné. Sois pas sourde, hein, maintenant t'es pas sourde.
Alors ils sont drôles, émouvants, rebelles. Parfois, ouais. Ils repassent leurs souvenirs et regardent la mort en face avec une parole très libre. Ils sont à l'aise avec vous. Alors d'abord, comment les avez-vous trouvés ? J'ai pas envie de parler de casting.
Oui, non mais si vous voulez, même moi, en fait, moi j'aime bien préserver le hasard des rencontres. Mmh. Mais après, il y avait quand même, dès le départ avec mon producteur Laurent Lavollée, une envie de raconter quand même ce qu'a été... au travers de gens simples, en fait, ce qu'a été la France ce dernier siècle. Et donc, forcément, il y avait une volonté. On peut pas être exhaustif et parler de tout le monde, mais il y a quand même une volonté de parler un peu de toute cette diversité culturelle, sociale, ethnique. Donc, on s'est dit, voilà, il nous faudrait un marin-pêcheur en Bretagne, il nous faudrait quelqu'un qui a travaillé dans les mines en Lorraine ou dans le Nord. un berger basque, ce genre de choses. Et donc, on a commencé à discuter autour de nous, qui connaît, est-ce que quelqu'un connaît une personne qui correspondrait à ceci, cela? Et puis donc, on a fait un peu, on a fait notre carte du Tour de France comme ça. Mais on s'est préservé aussi le hasard des rencontres
la
sur
surprise,
ce chemin.
Ouais,
ouais. La surprise.
Et vous en avez eu beaucoup?
Oui, alors c'est ça qui est, que j'aime bien. Alors, et même les personnes qui sont entre guillemets cassées, même voilà, moi non plus j'aime pas trop ce terme, mais j'essaye de ne pas avoir de contact avec elles avant. C'est-à-dire que c'est organisé par les personnes de la production parce que j'aime bien cette magie de la première rencontre. C'est-à-dire que je suis un peu l'inconnu de passage. Et donc même quand on arrive avec Sylvain Lézère qui fait les superbes images du film, parce que là c'est un magnifique photographe Sylvain, et donc pendant l'installation technique, les personnes souvent ont envie de commencer à nous raconter des choses, et je dis non,
attendez.
Oui, c'est moi, alors je leur parle de ma vie, de choses...
Donc oui, en fait vous parlez de vous aussi pour susciter l'échange. Bon, ça évidemment ça n'apparaît pas à la caméra parce que ça n'a aucun intérêt, c'est pas un film sur vous, c'est un film sur eux,
c'est
mais
ça.
C'est ça, il y a un partage. En fait.
Non mais en fait moi j'essaie de parler de moi avant que la caméra ne tourne pour éviter qu'il ne parle. Parce que si je sais que telle personne a telle chose fascinante à me raconter, je vais avoir tendance à lui demander de le répéter. Ça sera jamais aussi fort que si c'est dit pour la première fois. Et, ou si les personnes sont un peu timides, c'est vrai que pendant peut-être les 15-20 premières minutes, je raconte ma vie pour les mettre à l'aise. Et j'ai jamais de questions préparées à l'avance. C'est un peu, je dis toujours que c'est un peu comme quand on a des amis à dîner. On prépare pas de questions à l'avance, vous voyez.
C'est une conversation.
Et j'essaie de mettre les personnes dans une situation où elles finissent par faire un monologue d'une certaine manière, où elles me racontent leur vie. Et j'ai même parfois des petits trucs, comme je fais semblant d'avoir un problème technique sur la caméra, je fais un réglage, où je refais mes lacets parce que ça, c'est des moments qui créent aussi un silence. Et j'adore même dans le film garder des silences et parfois donc après ces silences la personne elle-même se met à parler et puis elle me dit ah mais vous savez pas est-ce que vous savez que et c'est là que la magie se crée souvent.
Au fil de leur histoire et de leur mémoire. Alors, il y a ce baron qui regrette que la noblesse, ça ne veuille plus rien dire. Cette centenaire qui avoue qu'elle en a marre de vivre. Ce couple qui raconte sa rencontre dans un bal. Ce veuf qui s'ennuie. Cette dame qui raconte la rafle de son père juif pendant la guerre. Ce mineur et sa première descente à la mine à 15 ans. Celui qui rend hommage à ses soignantes en EHPAD. Et un homme perdu d'ailleurs, complètement perdu, qui s'interroge. Oui. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, en fait ?
Déjà, rien que quand vous énumérez ça, ça me fait revivre ce voyage, c'était magnifique. Et en fait, ce qui était important pour moi au départ, et c'était l'émerveillement aussi que j'ai eu pendant le tournage du film, c'est que finalement, on a souvent tendance, dans le débat public, à mettre des gens dans les cases. Les vieux. Alors nous, on a choisi le titre « Les vieux », certes, mais même avant de partir tourner le film, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais tu vas rencontrer les vieux, ils sont comme ça, ils radotent, ou ils sont râleurs. » Mais en fait... Ça n'existe pas, les vieux. En fait, il n'y a que des individus. Et c'est ce que je trouve beau, en fait, d'aller en allant à la rencontre de l'autre. En fait, moi, je trouve que on ne soupçonne pas l'émerveillement qu'on peut avoir à écouter des histoires simples des gens du quotidien. On a toujours l'impression que, voilà, il faut aller voir des gens hyper connus, hyper célèbres pour avoir des paroles fortes. Et en fait, là, non, c'est vraiment ce qui m'a bouleversé. Je trouve qu'il y a des phrases dans le film et que j'ai découvert moi pendant que la caméra tournait, hein, un peu comme le spectateur dans la salle. J'étais émerveillé de des gens simples qui disent des choses d'une profondeur avec des mots du quotidien. Comme cette institutrice de maternelle qui dit que l'uniformité ne fait pas l'unité, par exemple, ou que ce qui est grave, c'est pas la solitude, mais l'isolement.
Oui. Enfin, c'est... Bon, on va y venir, mais en fil rouge, quand même, il y a cette question, à quel moment est-on vieux ?
Oui, alors ça, c'est une question que je me suis posée dès le départ. Forcément, à un moment, j'ai même proposé à mon producteur de ne filmer que des centenaires, parce que je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il y avait 21 000 centenaires en France, et je me dis, bon, il y a vraiment de quoi faire un film. Mais finalement, ce choix, ça nous paraissait un peu théorique. Et finalement... On a décidé d'aller voir principalement des personnes qui sont... En fait, c'était le postulat de départ, d'aller voir des personnes qui sont nées avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient un peu un souvenir de ce monde d'avant, parce que je pense que le monde a beaucoup changé à ce moment-là. Et donc voilà, c'est ce qui fait aussi les souvenirs de la guerre qui sont très forts. Mais, chemin faisant, nous avons rencontré des... Par exemple, j'ai rencontré à Marseille un type, c'est totalement dingue, qui me raconte... qu'il est né grâce à la guerre parce que ses parents se sont rencontrés dans un camp de concentration.
Oui.
Et je me dis, c'est inouï. Et je me dis, je ne vais pas me priver de ce témoignage incroyable juste parce qu'il est né, il est né trop tard. Donc voilà, en gros, je pense que le film, il y a des personnes entre 78 et 102 ans. Mais à partir de quand est-on vieux? Ça, j'en sais rien, personne ne le sait. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, être vieux, c'était l'âge de ma sœur, donc 2 ans de plus, quand j'étais en 6e, les vieux, c'est ceux en 4e, vous voyez?
Ah oui, c'est toujours très relatif. Hein. Voilà. Alors, parmi ceux qui témoignent, il y a Marcel Herny, qui est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous habitez Colmar et vous témoignez donc dans le film avec votre mari Jean-Jacques, séparément et ensemble. D'abord, quelle a été votre réaction quand vous êtes vue à l'écran, Marcel?
D'abord, je n'ai pas reconnu ma voix. J'ai bien reconnu celle de mon mari, mais pas la mienne. Quand je me suis vue, oui, rien de particulier.
Pas d'émotion particulière.
Non, pas du tout.
Comment Klaus Drexel vous a-t-il convaincu de témoigner?
Eh bien, écoutez, un ami m'a posé la question s'il pouvait m'amener des gens qui voulaient faire un film sur les vieux. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, ils sont venus là d'emblée. Et on a papoté une journée entière. On a passé la journée. Et la première fois que j'ai vu le film, je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait bien pu retenir de tout ce qu'on avait pu dire dans la journée.
Oui.
Après, quand j'ai revu le film une deuxième fois, là, j'ai pu apercevoir ce que les uns et les autres avaient dit. Et je trouvais que c'était un vrai puzzle. Et chaque apport était une pièce du puzzle. Mmh. Et chaque apport avait une couleur différente. Et que c'était un tableau formidable.
Alors, Marcel, vous parlez de votre couple dans le film.
Ouais.
Vous avez toujours été assez indépendante et vous dites « je deviens dépendante de sa présence ouais. ». Vous parlez de votre mari. On ouais. fait tout ensemble. Faut que tu me lâches la bride. Vous avez peur d'être séparée aujourd'hui?
Ben, j'y pense pas. C'est pas dans mes préoccupations. Mais là, c'était juste une après-midi où je me retrouvais toute seule, et c'est relativement rare. Mmh. Et là, j'ai vraiment paniqué, je me suis dit, j'aurais dû faire des courses, et j'ai pas réussi à les faire. Oui. Prendre ma voiture, me déplacer en ville, aller chercher des parkings, je me suis dit, je deviens dépendante, et ça m'a fait peur.
Oui, c'est une réflexion que vous vous faites ouais. aujourd'hui, ouais. cette dépendance à votre mari. À la fin, il y a votre mari qui dit, de toute façon, c'est toi qui commandes.
Oui, c'est un peu vrai.
Moi, j'adore l'intimité de votre couple. Ça dure que quelques minutes, mais on arrive vraiment à entrer dans votre intimité. Et ça, c'est assez magique. J'ai encore une question, Marcel. Est-ce que oui. vous vous sentez vieille?
Ben non.
Ah.
Avant, je ne savais même pas que j'étais vieille. Mais maintenant, tout le monde le sait, donc voilà.
Mais non, justement, il vous embellit.
Non, je ne me sens pas vieille. Mon mari dit le matin quand on se lève et qu'on a des courbatures un peu partout, là on se sent vieux, mais dans la journée, non, non. Mmh. Et je trouve qu'on a tellement de jeunes autour de nous qui nous amènent la vie et qu'on n'a pas le temps de se sentir vieux.
Klaus Drexel, il est aussi beaucoup question d'isolement hein, ouais. dans votre film. Je dis bien d'isolement, on a voilà. commencé à en parler un peu tout à l'heure, plus que de solitude. Ça, c'est vraiment le principal problème de nos aînés aujourd'hui.
Mais oui, absolument. Et voyez, donc Marcel, que je suis ravi d'entendre, les Herny, ils ont cette chance d'avoir leurs enfants qui sont proches, leurs filles, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment... Alors évidemment, quand on vieillit, il y a les problèmes de santé qui sont essentiels, mais le fait d'être entouré d'amis ou de famille, c'est vraiment ce qui permet de vieillir le mieux. Mmh. Et je pense que c'est tellement important.
C'est les interactions.
C'est les interactions, d'aller voir les autres. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est vraiment une chose d'intérêt public, dirais-je, de pas laisser les vieux seuls. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'avais en face de chez moi une dame qui habitait et qui est décédée sans que j'aille jamais la voir. Et je m'en sens encore coupable aujourd'hui. Et je me dis, il faut vraiment, si on a sur notre palier des voisins qui sont seuls et isolés, il faut absolument aller les voir et parler avec eux et leur tendre la main.
Et puis dans votre film, on parle aussi de la mort, évidemment. La plupart y ont beaucoup réfléchi. La plupart se disent aussi assez prêts à partir. Oui. Et j'aimerais bien qu'on entende le témoignage de Denise. C'est un extrait de votre film, cette centenaire qui est aussi la star de l'affiche du film.
J'en ai marre, oui. Ça me pèse. Je trouve que non seulement pour moi, mais pour les autres aussi, je trouve que je suis un boulet. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai plus aucune utilité. On ne devrait pas vivre si vieux. Non.
Klaus Drexel, c'est très émouvant, oui, le témoignage de Denise, et terrible aussi ce sentiment d'inutilité.
Mais exactement, et c'est ce qui me rend un peu en colère par rapport, vis-à-vis de la société, parce que donc Denise est partie depuis, elle est morte à l'âge de 103 ans, et je suis régulièrement en contact aussi avec sa fille Annie, et je peux vous dire que Denise n'a jamais été un boulet pour qui que ce soit. Et si elle a ce sentiment, c'est que, justement, dans la société, on fait sentir ça aux personnes âgées. Et c'est ça qui est révoltant. Je pense que il y a quelque chose de naturel quand on a des enfants, on s'en occupe. Je pense que nos parents, nos grands-parents, quand ils vieillissent, ils retombent d'une certaine manière en enfance aussi. Et je pense que c'est important de s'en occuper et de faire ça. Et justement, ce qui est beau dans le film aussi, c'est que Denise dit ça, mais Jean-Jacques, le mari de Marcel, dit aussi, on a une utilité, ne serait-ce qu'écouter. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel.
Est-ce que ce film, et ce sera ma dernière question, a changé votre rapport avec les membres de votre propre famille ?
Bien sûr, moi je m'occupe de mes parents, mon père qui vieillit. Je vous cache pas que j'ai presque passé une nuit blanche parce que mon père a eu des problèmes cette nuit, donc c'est bouleversant. Donc pour moi l'enseignement aussi de ce film, c'est que il faut prendre soin de sa santé régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des petits bobos qui paraissent insignifiants. Je pense qu'il faut s'en occuper tout de suite et comme ça on peut mieux aborder le prochain problème qui arrive, parce que si les choses s'accumulent, on vieillit mal et je pense que c'est ça qui est vraiment important.
Merci Klaus Drexel d'être passé par le 13-14 et merci aussi à vous Marcel Ernie d'avoir témoigné. Et belle vie aussi à vous. Merci. Une semaine dans leur vie autour de la Seine, le fleuve se métamorphose pour accueillir les Jeux Olympiques entre cérémonies d'ouverture et épreuves sportives. L'enjeu et la promesse, c'est de pouvoir s'y baigner, d'autant qu'il y aura la nage en eau libre et le triathlon. Pour y arriver, il faut déjà raccorder toutes les péniches au réseau d'assainissement. Et c'est Sarah Bernard, de la Direction régionale interdépartementale de l'environnement et des transports, qui est chargée de contrôler ces nouvelles installations. Emma Sarango l'a suivie.
Là, on est juste au niveau du pont des Invalides, en fait, qui est le pont en aval du pont Alexandre III, en fait, qui est le pont qui fera le départ des épreuves de nage en Seine, donc le triathlon, le paratriathlon et la natation marathon. Les athlètes vont partir du pont Alexandre III, vont aller jusqu'au pont de la Mât et puis vont revenir. Donc forcément, vont passer devant le bateau devant lequel on est, donc qui est le Fluctuate.
Bonjour, est-ce que vous pouvez nous montrer vos raccordements à assainissement, au réseau d'assainissement ?
Ah ben alors, je vais vous montrer. Alors, nous avons une trappe là-bas, alors, elle est sur le quai, donc juste à côté de l'entrée de la péniche. Voilà, cette trappe, c'est une plaque d'égout, très classique. Et l'ensemble des eaux usées sont collectées, descendent en gravitaire dans une cuve. Et dans ces cuves, il y a des pompes. Et ces pompes renvoient les eaux usées vers les égouts au travers de cette trappe.
C'est un système, on voit bien que c'est assez propre. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de déchets. Avant, l'équipement des quais, les bateaux en fait, avaient des cuves en fait, et qui déversaient directement en Seine quand ils n'étaient pas raccordés.
Qui va déverser quoi ?
Les eaux usées. Les eaux usées, des toilettes, des lavabos, enfin toutes les eaux usées. Et même si c'est pas une pollution qui est très importante en termes de quantité, en fait, il s'avère qu'elle est pile au niveau des épreuves de nage en Seine et donc du coup pouvant entraîner en fait différentes maladies pour les athlètes.
Vous qui travaillez sur la Seine au quotidien, vous la trouvez comment la Seine ?
Et écoutez, je pense qu'elle est de plus en plus propre. Et on peut dire, quand on est arrivé ici, au tout début, on va dire, dès qu'il fait beau au printemps, que les gens se mettent à pique-niquer sur la Seine, on a voyé arriver des flux de déchets flottants. Je crois que ça s'est beaucoup amélioré. Par ailleurs, nous mettons en place, comme beaucoup d'établissements, des barrages en amont de nos établissements pour éviter d'être envahis par les déchets. Vous voyez, là, vous avez cette bouée jaune, hein, tout en longueur, qui est attaché sur le quai et qui vient créer une barrière le long de la Seine pour éviter que les déchets passent et viennent s'accumuler entre le bateau et le quai.
Parce que ça fait mauvais genre, tout simplement, pour votre clientèle.
Oui, que les clientèles passent par une marée de déchets pour entrer dans le bateau, ça, effectivement, ce serait pas tout à fait agréable.
Leur rappeler qu'il faut se raccorder. Est-ce qu'en général les gens sont volontaires ?
de manière générale, on a quand même une très bonne volonté en fait de l'ensemble des bateaux en fait concernés. On a bientôt atteint l'objectif de raccorder l'ensemble des bateaux, donc plutôt une très bonne volonté des bateaux. Après, il y a quelques récalcitrants, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Et certains d'entre eux, on peut même pas vraiment les qualifier de récalcitrants, puisqu'en fait, ils ont certains ne sont pas là en fait, donc ils n'ont pas forcément les courriers, les relances. Si jamais il y a un refus ou une absence de retour de réponse, en fait, il y aura un déplacement d'office.
Feuilleton signé Emma Sarango avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, Éric Fotorino. On dirait que l'Europe fait de moins en moins rêver les Français.
Eh oui, Christelle, si on en croit l'Eurobaromètre commandé régulièrement par le Parlement européen et dont la dernière vague de sondage a été rendue publique le 17 avril. C'est bien simple, seuls 42% de nos compatriotes se disent optimistes pour l'Europe, bien moins donc que les 52% de pessimistes. Si on regarde 4 ans en arrière, fin 2020, ce sont au contraire 52% des Français qui s'affirmaient plutôt optimistes, voire très optimistes, et 44% seulement pessimistes. La donne s'est inversée. Les plus allants en faveur de l'Europe, sans grande surprise, sont les Danois et les Irlandais, et plus étonnant, les Lituaniens. Deuxième pays le plus peuplé des 27, après l'Allemagne, la France est loin de sauter comme un cabri en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », vous vous souvenez, ouais. Comme se moquait jadis le général de Gaulle. Parmi les signes inquiétants de cet eurobaromètre, les Français sont 76% à estimer que les choses vont mal dans leur propre pays. Et moins de 10% connaissent la date des prochaines élections européennes pour lesquelles ils se disent à 67% motivés pour aller voter, même si, paradoxe, 53 d'entre eux se disent peu intéressés à la perspective de renouveler le Parlement de Strasbourg. Vous voyez, il n'y a pas de raison d'entonner l'hymne à la joie. Non. Si on ajoute que la liste du RN conduite par Jordan Bardella est annoncée victorieuse loin devant la liste présidentielle, et ceci explique peut-être cela, l'élection du 9 juin n'enchante guère les esprits.
Et l'Europe reste pourtant une idée forte, Eric, y compris pour nombre de Français.
C'est certain, Christelle. Et si on en croit les témoignages recueillis dans le trimestriel Zadig qui paraît aujourd'hui, titré justement « Rêver l'Europe » en partenariat avec la chaîne franco-allemande Arte. Des anonymes comme des personnalités, les écrivaines Maria Pourchet et Lola Lafont ou le cinéaste Costa Gavras mettent en lumière le rôle central de l'Europe comme pourvoyeuse de paix et de démocratie, d'échanges culturels et de compréhension entre les peuples qui la composent. Peut-être, comme le dit notre confrère suisse Richard Verli dans sa lettre République, que les Français n'aiment plus une Europe de moins en moins française. Cette Europe-là, dirigée par une Allemande aux manières impériales et peu collégiales, poursuit-il, n'a plus rien de tricolore. Elle est balte et polonaise sur la défense, scandinave et allemande sur le budget, grecque et italienne sur l'immigration. Une caricature, reconnaît-il lui-même, tout en redoutant que l'européisme finisse en rhumatisme.
Alors comment croire au rêve européen ?
C'est bien notre ambition, chère Christelle, avec de grands Européens comme Wim Wenders, Cyril De Luca ou le sociologue de la vitesse Armut Rosa présent dans Zadig, mais aussi ce récit passionnant du journaliste historien Xavier Mauduit sur l'idée centrale de la paix perpétuelle qui fut depuis le XVIIIe siècle un invariant de l'Europe. Cet invariant s'est poursuivi au XXe siècle avec la personnalité de Louise Weiss qui milita sa vie durant pour la construction européenne comme gage de l'entente entre les nations. Si ses rêves ont été contrariés par nombre de guerres sanglantes, il reste un idéal européen qu'il faudrait pouvoir rallumer comme autant d'étoiles dans le ciel de l'Europe. S'il est bien tard, on voudrait espérer qu'il n'est pas trop tard, mais le verbe n'est rien sans l'action. On se souvient de la question insolente d'Henry Kissinger jadis. L'Europe, quel numéro de téléphone ? Il serait temps qu'entre Strasbourg, Bruxelles et les 27 membres de l'Union, on puisse tirer le bon numéro.
Merci Eric. Et donc, un numéro spécial de Zadig qui s'appelle « Rêver l'Europe ». Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
De C'est la France, à C'est une chanson, c'est avec un écrivain que vous parlez chanson aujourd'hui, Frédéric Pommier, David Diop.
David Diop, lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2018 pour Frères d'âme, il vient de publier aux éditions Rajo Le Pays de Rêve, un court roman destiné à la jeunesse dans lequel il raconte le destin de Rêve. Rêve, c'est une jeune fille qui vit dans un pays en guerre, non loin d'une décharge au bord de l'océan. Elle rêve d'un ailleurs. Et c'est une chanson du groupe Zoufris Maracas que David Diop a souhaité que l'on écoute, Sa Majesté la Mère.
C'est une chanson que m'a fait écouter mon épouse
qui préparait en fait une séquence, on dit ça comme ça entre profs, hein, sur les exilés, les migrants. Et c'est une chanson qu'elle m'a fait écouter et on était vraiment très émus en l'écoutant. Parce que elle raconte, comme les plus belles chansons, je crois, un monde, un drame, en quelques mots. Et ce qui est vraiment fascinant pour moi, c'est qu'il y a un côté un peu guiré dans la musique qui vous donne envie de danser. Mais si on écoute les paroles, il y a ce décalage qui fait que, bien, elle est inoubliable, je trouve. Donc voilà les circonstances dans lesquelles j'ai découvert cette chanson et chaque fois que je l'entends, je suis ému.
Aux premières notes que j'ai jouées, à vous sa majesté la mer, aux vagues venues se briser, depuis l'autre bout de la terre, j'aurais mille questions à poser, vous qui avez croisé les hivers, qui ne sont pas encore arrivés, du côté de mon hémisphère. De mon hémisphère.
C'est en 2020 qu'est sortie cette chanson de Zoufris Maracas, Frédéric.
Oui, sur Bleu de Lune, le troisième album du groupe, une chanson qui commence comme un hommage à la mer et qui, peu à peu, se transforme en tribune poétique pour alerter sur la situation de ceux qui fuient leur pays et font naufrage en mer. C'est donc ce qu'on peut appeler une chanson engagée, une chanson politique, estime David Diop.
Oui, je pense que c'est une chanson politique, puisque elle appelle à une sorte d'éveil des consciences. Et pour moi, ça a été un tournant d'entendre cette chanson, parce que, alors que je me promettais de ne pas écrire sur cette question des migrants, et que je m'en sentais incapable, dans la mesure où ce qui est écrit par les migrants eux-mêmes sur leur voyage, les témoignages, dépasse l'imagination. Et à travers ce morceau de Zoufris Maracas, on peut se rendre compte que l'art permet d'ouvrir l'esprit et les cœurs de gens qui n'auraient pas été sensibles peut-être à un exposé académique sur le nombre de morts, etc., etc. C'est-à-dire que la chanson, c'est une voix. Comme la littérature, elle peut prêter une voix à des gens qui ne parlent jamais ou qui n'auront jamais la chance de dire ce qu'ils ont vécu. Et donc c'est pour ça que je me suis aussi un peu autorisé à écrire Le Pays de Rêve, parce que je me suis dit, voilà, par la poésie peut-être, on peut dire des choses et faire s'ouvrir les cœurs.
Vous qui avez fait tant de noyés, des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armés pour faire fleurir leurs petites affaires, j'aurais mille questions à poser, à vous sa majesté la mer. Devant autant d'absurdité et au nom du grand univers, ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêves mes frères, plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêves mes frères.
Est-ce que cette chanson-là, elle n'a pas pour vertu aussi d'être presque une chanson funèbre pour rendre hommage à des gens qui n'ont pas de sépulture?
Oui, parce que la chanson, justement, ressuscite les personnes qu'elle évoque, d'une certaine façon. Le rythme de la chanson peut exciter la mémoire, et finalement, la mémoire, c'est ce qui nous rattache aux morts. Et puis, une chanson est proche d'une prière.
Pour vous, cette chanson, c'est une chanson de recueillement?
Oui, et une chanson aussi qui permet la méditation sur notre place dans le monde. L'indifférence est la pire des choses qui soient.
En l'occurrence, l'indifférence vis-à-vis de ceux
de qui ceux ont qui,
la malchance de naître du mauvais côté de la Méditerranée.
Exactement, exactement. On estime, pour parler de chiffres horribles, qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont mortes en 10 ans et qui sont perdues corps et biens. Ce sont des estimations. Bien voilà, toutes ces personnes ont bu la tasse pour un rêve d'ailleurs.
Zoufris Maracas, Sa Majesté la Mère. C'était donc Frédéric, le choix de David Diop.
David Diop, dont le roman jeunesse Le Pays de Rêve vient de paraître aux éditions Rajo.
Merci Frédéric.